Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Juste après le journal de 19h, les vendredis thématiques d'Europe 1, aujourd'hui l'historien Éric Anceau qui nous expliquera pourquoi l'héritage des Lumières n'est pas perdu à jamais, contrairement aux idées reçues. Après, bien sûr, votre journal. Bonsoir Hélène Zellani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 19h sur Europe 1. Incident diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Le secrétaire d'État Anthony Blinken reporte sa visite à Pékin après la détection d'un ballon chinois dans l'espace aérien américain.
Et Pékin parle d'incident involontaire. Les détails sur cette bien étrange affaire dans un instant. Nous irons à Soulas-sur-Mer en Gironde où le fameux Signal, l'immeuble construit en bord de mer dans les années 60, est en voie de destruction. Dans ce journal, la mort du couturier Paco Rabanne, connu pour ses robes en métal et ses prophéties excentriques. Et puis on sait désormais où la flamme olympique de Paris 2024 commencera son périple en France, Marseille, et elle arrivera par la mer à bord d'un célèbre navire.
La tendance météo, bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Temps gris au nord, dégagé au sud, sous des maximales demain entre 8 et 11 degrés en général.
A tout à l'heure, à la fin du journal. Europe 1. À l'heure des satellites, un ballon sème la discorde entre les États-Unis et la Chine.
Oui, le Pentagone a repéré ce ballon d'observation au-dessus du territoire américain. L'armée et les services de renseignement ont été mis en alerte. Ce soir, la Chine affirme regretter, je cite, la violation involontaire de l'espace aérien américain. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le secrétaire d'État Anthony Blinken reporte sa visite en Chine prévue dans 2 jours.
Oui, c'est une manière pour Washington d'exprimer son mécontentement, même si Pékin regrette et s'est expliqué. Il s'agirait d'un ballon d'observation météorologique porté par les vents, un engin qui se serait donc retrouvé par accident au-dessus de sites militaires et nucléaires américains à 10 000 km du territoire chinois. Le Pentagone répète qu'il n'y a pas de risque pour la population, mais pas question de croire les justifications chinoises. Patrick Ryder est le porte-parole du département de la Défense.
Nous savons que c'est un ballon de surveillance, qu'il viole l'espace aérien américain et c'est inacceptable. Nous savons que c'est un ballon chinois qui peut être manœuvré et il a à un moment donné changé de trajectoire et c'est pourquoi nous le surveillons.
Alors en tout cas, cet incident supplémentaire est révélateur du niveau de tension entre les deux premières puissances mondiales. Alors qu'il y a déjà beaucoup de sujets épineux à traiter pour les diplomates américains et chinois, Taïwan, l'Ukraine, les questions commerciales, la visite d'Anthony Blinken sera donc reprogrammée dès que les conditions seront réunies, fait savoir le département d'État. En attendant, le ballon survole toujours le territoire américain et se déplace vers le centre du pays.
Alexis Guilleux, en direct de New York.
Et ce soir, les États-Unis disent vouloir maintenir le dialogue avec Pékin malgré le report du voyage d'Anthony Blinken.
Et tout ça, ce sont évidemment des mots très diplomatiques. Mais en réalité, William Molinier, si les Américains n'ont pas détruit ce ballon, c'est qu'il y a de bonnes raisons.
Alors c'est une option qui a été envisagée par le Pentagone. D'ailleurs, des avions de combat ont décollé et se sont rapprochés du dirigeable. Mais la destruction du ballon aurait provoqué des risques de débris pour les populations au sol. Il n'y avait pas de menace pour l'aviation civile ni de péril en matière de renseignement. En clair, pas de danger existentiel pour Washington, mais plutôt une sorte de provocation venue tout droit de Pékin, que ce soit un ballon espion ou d'observation météorologique. Les Chinois montrent ainsi leur capacité à copier, voire à dépasser les technologies américaines. Ce matériel est bien moins coûteux que les satellites envoyés dans l'espace, mais il peut prendre des clichés et ramener des informations de qualité. C'est une sorte de pied de nez envoyé à l'Amérique de Joe Biden dans la lutte d'influence que mènent les deux géants. En clair, regardez ce qu'on arrive à faire, aussi bien que vous et beaucoup moins cher.
William Molinier.
19h04 dans l'actualité en France, la tragique affaire de la mort de la jeune Siem, 18 ans, tuée par un multirécidiviste.
Oui, près d'Alès dans le Gard, le cousin de la lycéenne a pris la parole aujourd'hui, d'abord pour remercier les enquêteurs pour leur efficacité. Mais Azedine Malou s'est aussi étonné que le suspect, malgré son pédigré, ait pu rester en liberté.
On a tous des filles, on a tous des enfants qui sont sous la menace de loups, on les appelle des loups. C'est des gens qui sont capables de tout et qui pourtant promènent librement. Ce qui nous touche, c'est qu'il était sous liberté quoi, et qu'on paraissait libre aux assises après ce qu'il a fait. C'est un étonnement de savoir que monsieur comme ça pouvait voyager dans toute l'Europe. Un monsieur qui a agressé des gens qu'on aimait énormément. Il a agressé des voisins gravement. Et ce monsieur se baladait, il n'avait ni besoin de pointer en gendarmerie, ni besoin de rendre quelconque compte à l'État, la lenteur de la justice. On le regrette malheureusement, après on sait que c'est pour tout le monde pareil, mais si, il y aurait eu, entre guillemets, des moyens à afin que ce monsieur puisse être jugé plus tôt. On aurait pu éviter le drame. Il y a énormément de mal à en dire. On pourrait écrire des livres sur sa méchanceté, mais ce n'est pas le but. Nous qui on aime, c'est Siem. De qui on veut parler, c'est Siem. Qui on a recherché, c'est Siem.
Le cousin de la jeune Siem, l'autopsie était prévue dans la journée. Les résultats sont attendus la semaine prochaine. Un TGV Colmar-Paris a dû être immobilisé ce matin en gare de Lorraine. À bord, un homme menaçait de commettre un attentat. Il a été maîtrisé par un policier hors service.
Et maintenant, l'histoire d'un immeuble emblématique. Il était le symbole de l'érosion sur le littoral atlantique.
Oui, le Signal, construit en 1967 à 200 mètres du rivage à Soulac-sur-Mer en Gironde. 4 étages, 10 ans de bataille juridique et finalement, la démolition a commencé aujourd'hui. Stéphane Place y assistait pour Europe 1.
L'énorme engin de chantier donne les premiers coups de pelle. Des morceaux de l'immeuble, désormais dépouillés, désamiantés, chutent au sol. Sous les yeux de Nicole et Annie, deux sœurs dont le papa avait acheté l'un des 78 appartements du Signal. À l'époque, en 1980, il se trouvait à environ 300 mètres de l'océan. Aujourd'hui, moins de 20 mètres le séparent de l'eau à marée haute.
Ça fait quand même plusieurs années qu'on a été foutu à la porte, mais on ne pensait jamais que ça allait se terminer de cette façon-là.
Et on n'a pas eu d'équivalent qui nous permette d'acheter quoi que ce soit.
Des propriétaires qui n'ont plus accès à l'immeuble depuis bientôt 10 ans et qui ont été indemnisés après une longue, très longue bataille juridico-administrative. Xavier Pinta est le maire de Soulac.
On en avait un peu assez de cet injuste paradoxe. À la fois, on est sur toutes les chaînes et toutes les radios, le symbole de l'érosion marine en France et en Europe, alors qu'à quelques mètres, vous avez une des plus belles plages de la côte atlantique. Grâce à la gestion du trait de côte, donc à la place du Signal, on va reconstituer la dune, revégétaliser. On aura deux belvédères qui feront découvrir le milieu lunaire, la faune et la flore, et un belvédère face à la mer qui nous permettra de voir notre belle plage et de voir le phare de Cordouan.
3 semaines pour raser le Signal, 15 jours ensuite pour évacuer les gravats de cet immeuble devenu le symbole embarrassant de l'érosion côtière.
Stéphane Place à Soulac-sur-Mer pour Europe 1. Et si on en croit les scientifiques, le littoral du golfe de Gascogne pourrait reculer de 50 mètres d'ici 2050.
Tout augmente, c'est un secret pour personne. Est-ce que ça va continuer? C'est l'objet de négociations commerciales entre industriels et grandes distributions.
Oui, elles se terminent le 28 février et les nouveaux tarifs seront répercutés dès le mois de mars. Les prix des produits alimentaires se sont déjà envolés de 13% en moyenne sur un an. Les consommateurs que nous sommes craignent évidemment de nouvelles hausses dans les rayons, mais en face, chacun veut conserver ses marges. Le patron de Panzani, Albert Mathieu, se veut optimiste. Il était l'invité de La France Bouge à la mi-journée sur Europe 1.
On discute de façon transparente les hausses de coûts. Ce n'est pas un secret que l'énergie a augmenté. Ce n'est pas un secret qu'il y a une prix pour tout le monde. Donc on essaye chacun d'arriver à un point d'entente qui permette de préserver nos équilibres économiques. Pour être tout à fait clair, les discussions avancent. Elles ne sont pas toujours faciles, mais c'est dans un esprit positif. Et moi, j'ai bon espoir qu'on aboutisse à un accord dans les délais qui sont, que vous avez évoqués. Très clairement, aujourd'hui, je vous donnais juste un cadre. S'il fallait qu'on répercute 100% des inflations nouvelles qui n'ont pas été répercutées dans nos hausses de prix précédentes, il faudrait qu'on augmente de 15% notre prix.
Donc qui on arriverait à un paquet couvert. De pâtes à 1,15€.
Donc on va couvrir une partie de ces surcoûts nous-mêmes. Il y aura un solde à couvrir. Et ce solde à couvrir, c'est justement ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui
avec la grande distribution. Le directeur général de Panzani au micro d'Elisabeth Assayag.
Il est 19h08 sur Europe 1. Il avait inventé les robes en métal. Le couturier Paco Rabanne est décédé aujourd'hui. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve. 19h10, la suite du journal sur Europe 1 avec Hélène Zelani et la mort aujourd'hui du couturier Paco Rabanne.
Oui, il avait 88 ans, né au Pays Basque espagnol. Il a toujours habité en France. Il est mort dans le village de Porçal, en Bretagne, où il habitait. Paco Rabanne, c'est avant tout des robes en métal portées par de grandes stars dans les années 60, Nina Droff.
Oui, la papesse du style Coco Chanel le surnommait même le métallurgiste de la mode. Le jeune Paco Rabanne lance sa maison de couture en 1966 et son premier défilé de robes importables fait l'effet d'une petite révolution dans le monde de la mode. Des robes faites de morceaux de métal, de plastique brillant et même de cottes de maille. Terminé le tissu, le créateur explore les matériaux les plus insolites pour ses créations. Écoutez.
Cette année, j'ai un nouveau matériau. C'est un jersey d'aluminium très très léger qui est laqué. Ce ne sont plus des robes, j'appelle ça des camisoles de métal. Et sont portées sur des très longs manteaux tricotés de fourrure qui sont jusqu'au sol.
Ses muses, Jane Birkin, Brigitte Bardot, mais surtout Françoise Hardy, qui l'habille en 1967 d'une robe en plaque d'or, incrustée de diamants, un côté futuriste et bling-bling qu'il applique à toutes ses créations, même à ses parfums, One Million et Lady Million, fabriqués dans les années 2000. Au-delà d'un créateur, Paco Rabanne était également un personnage un peu farfelu, très mystique. Il affirmait avoir des visions et prédit même en 1999 la destruction de la ville de Paris par la chute de la station spatiale Mir.
Bien sûr, je suis un couturier, donc un allumé. Mais soyez à l'écoute des informations, des radios. Et si on vous dit que tel jour à telle heure, la station Mir va tomber dans le Pacifique, ne le croyez pas. Allez loin de Paris. Dans les écrits de Monsieur de Notre-Dame, ils disent « le feu du ciel tombera sur ces villes ».
Finalement, ses visions ne s'avèrent pas très fiables, mais lui était assurément un visionnaire dans son domaine.
Nina Droff. Et puis une autre disparition, celle de l'acteur Louis Vel. Il avait 96 ans. C'était l'un des doyens du cinéma français.
Le football, on l'a appris hier, la retraite internationale de Raphaël Varane.
Oui, aujourd'hui, le sélectionneur de l'équipe de France réagit à ce départ. Didier Deschamps était à Lille dans le cadre de l'opération Pièce jaune. L'occasion de dire merci au joueur qui a tant donné aux Bleus.
Évidemment, c'est un départ qui ne me fait pas sauter de joie, mais je respecte. Merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a donné à l'équipe de France. Au-delà de son talent et des titres qu'il a pu gagner, c'est aussi son état d'esprit, toujours par rapport au collectif. Et j'ai eu le privilège de le faire venir quand il était tout jeune, il avait moins de 20 ans. Au début, il était là surtout pour écouter et entendre les anciens. Et puis après, c'est lui qui a transmis aussi. Donc merci à lui, mais sa carrière n'est pas finie, bien évidemment. Il a encore des aventures à vivre avec son club Manchester United. C'est un grand joueur, un très grand joueur et un grand homme aussi qui arrête sa carrière internationale.
Didier Deschamps au micro Europe 1 de Maximilien Carlier. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous ce soir avec le multiplex de Ligue 2 dans Europe 1 Sport.
Venons-en aux JO, les JO de Paris en 2024. Marseille sera la première ville française à accueillir la flamme.
Et oui, le comité d'organisation emmené par Tony Estanguet l'annonce aujourd'hui. La flamme traversera ensuite une soixantaine de territoires avant son arrivée à Paris le 14 juillet, une dizaine de jours avant le début des Jeux. Voilà qui assure en tout cas une image magnifique, la flamme olympique à bord d'un navire mythique à Marseille, Stéphane Burgat.
Le Belém, ce majestueux trois-mâts entrant dans le vieux port entouré d'une importante escorte de navires de plaisance au pied du Fort Saint-Jean. Les images de synthèse publiées aujourd'hui promettent un moment magique pour l'arrivée de cette flamme qui aura auparavant été allumée au temple d'Olympie avant de faire la traversée depuis la Grèce. Tout un symbole, se réjouit le président du comité d'organisation de ces Jeux, Tony Estanguet.
Ouais, c'est une émotion quand même, hein. La première journée d'arrivée de la flamme des Jeux dans notre pays 100 ans après, ça va être un très grand moment et choisir Marseille, c'était une évidence effectivement parce que c'est une ville qui a la passion du sport, qui a aussi ce lien, cette tradition avec la Grèce, plus ancienne cité phocéenne de France. C'est une ville qui va aussi nous offrir des images, je pense, très spectaculaire, donc ça cochait toutes les cases.
Tony Estanguet, soucieux de laisser une image forte dans l'histoire de ce relais de la flamme, comme Mohamed Ali en 1996 ou encore de l'archer des JO de Barcelone 92. L'arrivée est prévue au printemps 2024 sur cette rade qui, on le rappelle, accueillera 10 compétitions officielles de voile de ces Jeux Olympiques. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et puis on parle beaucoup de l'intelligence artificielle ChatGPT. Et bien une vingtaine d'étudiants de l'université de Strasbourg se sont fait prendre au petit jeu de la triche alors qu'ils devaient répondre à un questionnaire sur l'histoire du Japon. Résultat, ils ont dû repasser l'examen en présentiel. Il est bel et bien là avec nous, Didier Hameau de Boursier.com.
Tricheur.
Paris, sur la route des records.
Non, ça ne triche pas en bourse. Et ça monte toujours. Plus 0,94%, 7233 points au plus haut depuis un an. Cela veut dire que le CAC 40 n'est plus qu'à 2% de ses records historiques qui datent du début 2022. L'anticipation d'une moindre pression des banques centrales et d'un ralentissement du rythme d'inflation alimente toujours la hausse des marchés. Le scénario est identique en Europe avec une bourse à Londres qui termine au plus haut ce soir. C'est un record, plus 1% sur le FTSE, 7901 points. Amsterdam progresse de 0,7%, Zurich plus 1,4% et donc le CAC 40 plus 0,94%, 7233 points.
Merci Didier Hameau.
La météo maintenant, Valérie Darmon, et la France est coupée en deux.
Et oui, avec du sud-ouest, au Languedoc-Roussillon, à la région PACA, à la Corse, aux Alpes, un grand soleil toute la journée de demain, la tramontane qui souffle assez fort dans son domaine, jusqu'à 90 km/h, le Mistral plus vigoureux encore, avec des pointes à 110. Il faut juste patienter en Nouvelle-Aquitaine à cause des brouillards du matin en plaine qui vont se dissiper assez vite. L'après-midi, le ciel va s'ennuager aussi sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine, mais entre les deux, c'est le soleil qui brille. Sur le reste du pays, changement de programme total. Le ciel va rester couvert du matin au soir, donc encore de la grisaille sur Paris. Quelques gouttes attendues sur le Grand Est, quelques flocons sur les Vosges, aux alentours de 1100 mètres en matinée et 1003 l'après-midi.
Merci Valérie Darmon. C'était tout ?
Il y avait les températures, c'est comme
alors,
vous voulez.
J'attendais les
alors je vous donne les maximales. Entre 7 à Guéret l'après-midi et 17 à Perpignan, à Paris et Lille, 11 degrés.
Ben voilà, je sentais bien qu'il y avait une
tout
suite.
Tout est complet.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, le siècle des Lumières a-t-il complètement disparu ? On vous répond à tout de suite.